With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Alors, on va voir en début de grossesse différents mots. Effectivement, la première chose, on peut parler de la fatigue.
Ça occupe vraiment énormément de place.
Les nausées et les vomissements sont des symptômes qu'on va retrouver fréquemment.
Techniquement, sortir, travailler, quand on vomit tout le temps, c'est compliqué.
Moi, j'ai entendu des patientes me dire « Ah ben, on m'avait pas dit, quoi ».
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants.
Je vous en prie, installez-vous.
Alors, France, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?
Les mots de la grossesse.
Oui. Comment se sont passées vos grossesses ?
Alors, elles ont été toutes différentes, déjà. Mais il y a quand même un point commun, c'est les premiers trimestres difficiles, voire très difficiles. Voilà, oui. La première grossesse, ça a été supportable, des vomissements et des nausées, mais pas handicapant. Les suivantes, ça a été complètement handicapant et vraiment insupportable.
Ouais, c'est-à-dire complètement handicapant.
C'est-à-dire que je crois qu'il y a des femmes qui vomissent jusqu'à 40 fois par jour. Donc moi, j'en étais pas là, mais je crois que j'étais bien à une vingtaine de fois par jour. Mm-hmm. Et techniquement, sortir, travailler, quand on vomit tout le temps, c'est compliqué.
Mm-hmm. Vous avez continué de travailler ?
Oui, alors ça a été une période où j'ai eu de la chance parce que j'étais pas surchargée et où c'était une partie de déplacement, une partie où j'ai pu aussi tourner avec quelques collègues qui étaient dans la confidence. Donc j'ai vraiment allégé ma tâche professionnelle à ce moment-là, mais si j'avais été entre guillemets en plein boom, ça aurait pas été gérable, vraiment. Mmh.
Vous auriez été obligée de vous arrêter peut-être ?
Bah oui, je pense.
Donc vous vomissiez à peu près, donc vous disiez 20 fois par jour ?
Ah ouais, je pense à peu près. Ouais. Et la nuit aussi, parce qu'on dit toujours la nuit, mais moi ça me réveillait la nuit, vraiment. Avec des détails sordides, c'est-à-dire ce qui est insupportable en fait, en tout cas en ce qui me concerne, sont les odeurs. Et rien que de sentir l'odeur de mon mari quand il bougeait la nuit sous les draps, et c'était horrible. Mmh. Voilà. Je ne supportais pas ma propre odeur. Mmh. C'est-à-dire rien que d'aller faire pipi, me déshabiller, donc on bouge. Enfin, c'est des odeurs que je suis incapable de décrire aujourd'hui d'ailleurs, parce que on les sent pas en temps normal, ces odeurs-là. Mmh. Et là, je découvrais, en fait, je regardais mon chat, et je me disais qu'il y avait qu'elle qui pouvait me comprendre. Parce que je sais qu'ils ont un odorat hyper développé par rapport à nous. Je me demandais vraiment ce qui m'arrivait. Quoi. Mmh.
Oui, donc c'était pas un odorat que vous... aussi développé que vous aviez avant la grossesse, est vraiment apparu au moment de la grossesse.
Ah non, mais absolument pas. Mais il y a un nombre d'odeurs. Je ne supportais plus l'odeur de la lessive. Donc chez nous, la machine à laver au sous-sol, je ne pouvais plus descendre au sous-sol. C'est-à-dire que dès que je faisais une marche ou deux, je sentais l'odeur de la lessive direct, ça me faisait vomir. Donc il y a des odeurs comme ça. L'odeur de l'eau. Donc ça paraît incroyable de dire ça. J'ai cru que c'était mon carré de douche. J'ai essayé de changer de salle de bain, etc. Non, c'est vraiment l'odeur de l'eau, ou en tout cas ce qui sort de la robinetterie, de la tuyauterie. C'était une odeur, mais systématiquement, je vomissais.
Mmh. Est-ce que voilà, ces odeurs et du coup les vomissements que ça provoquait, est-ce que ça a duré tout au long de votre grossesse ?
Non, ça a été au premier trimestre et la dernière grossesse un tout petit peu plus long. Je dirais jusque début quatrième mois, mi-quatrième mois. Après, j'ai continué à avoir des nausées quand même. J'ai jamais eu une digestion très fluide pendant mes grossesses, mais c'était pas des vomissements comme ça très fréquents.
Ouais.
Les vomissements, c'est vraiment lourd à supporter, je trouve.
Voilà. Moralement, du coup, quel impact ça a eu pour vous ?
Alors, c'est tellement handicapant et on doit développer tellement de stratégies que ça occulte presque la grossesse, en fait. C'est-à-dire que je me souviens que la dernière grossesse, j'arrêtais pas de dire à mon mari, non mais j'ai juste envie qu'on me plonge dans un sommeil profond jusqu'au deuxième trimestre. J'avais envie de ça, de quasiment de pas vivre ce passage-là, parce que c'était vraiment, vraiment handicapant. Et du coup, il y a plein d'autres choses qu'on voit pas et qu'on traverse pas, parce que aller prendre sa douche, mais ça me prenait psychologiquement une heure de me dire « je vais encore tout vomir en me douchant ». Et puis après, il fallait aller se brosser les dents. Donc entre la douche et le brossage de dents, il fallait se reposer, sinon c'était trop. Donc tout est très très stratégique comme ça. Donc ça demande une telle gymnastique intellectuelle que ça occupe vraiment énormément de place. Et donc assez peu finalement de place à la grossesse. Bizarrement. Ça occulte une bonne partie, quoi. Et c'est vrai que les spasmes des vomissements, en revanche, là, vraiment, dans ces moments-là, je pensais au bébé, je me disais, mais c'est pas possible qu'il sente rien. Il y a des tels spasmes au niveau abdominal. Je me disais, mais il doit se passer quelque chose quand même pour ce bout de chou. Je me demandais à quel point ça générait pas une forme d'angoisse quand même pour lui, ces spasmes. Ça devait être des vibrations très fortes. Et en plus, il devait sentir, moi, ma gêne et... pire que ma gêne. Il devait quand même sentir quelque chose. J'ai du mal à croire qu'il ait rien compris à ce moment-là.
Est-ce que par moment, après, vous auriez pu avoir eu envie que ça s'arrête ou que la grossesse s'arrête pour que ces maux s'arrêtent ?
Ah oui, oui, il y a des moments où on a des flashs comme ça. On se dit, mais c'est pas possible, il faut que ça s'arrête, j'en peux plus, je vais pas tenir jusqu'à ce soir, tout simplement. Donc on a des flashs, alors c'est très court, mais... Enfin, en tout cas, personnellement, moi, ça m'est arrivé de les avoir.
Ouais.
Et pourtant, c'était des grossesses très désirées. Et voilà. Ça n'a... Mais effectivement, oui. Ça a vraiment gâché le plaisir, la joie du début.
Dans ce premier trimestre, est-ce que, du coup, vous avez... Alors, vous parliez de stratégie. Est-ce que vous avez essayé de faire des choses pour calmer l'odorat extrêmement développé, les nausées, les vomissements ?
Des petits trucs. Ce qui est, au début, surtout la stratégie qu'on met en place, c'est de pouvoir essayer de continuer à manger un peu. Et boire, parce que boire, c'est pour moi, c'était insupportable. Donc, sur toutes mes grossesses, ça m'a fait ça. J'arrive avec la limonade citronnée jusqu'à 11-12 semaines. Et puis, d'un seul coup, je suis incapable de vous dire ce qui se passe. Même la limonade ne passe plus. Et là, ça devient hyper compliqué de boire, vraiment. La dernière grossesse, j'ai dû être réhydratée d'ailleurs par perf, parce que c'était impossible de boire. Donc, dès que je buvais, je vomissais. Enfin, c'était pire, quoi. J'en perdais plus que ce que j'ingurgitais, finalement. Donc, oui, un peu un tissu d'eau. Mais alors, un tissu qui sent pas trop la lessive. Imbibé d'eau devant le nez, dans des endroits où je sais que ça va, qu'il va y avoir des odeurs. Enfin, en fait, c'est un peu des stratégies de survie, dans ces moments-là, franchement. Ça paraît bizarre de dire ça. Et franchement, quand je m'entends parler, j'ai l'impression d'être une folle. Et... quand j'essayais de sortir un peu de ce corps, entre guillemets, dans ces périodes-là, je me disais, mais ils doivent me prendre pour une folle, mes enfants et mon mari. Mais, parce que, mais moi, je vivais vraiment ça, quoi. C'était vraiment... Enfin, c'est incroyable, d'ailleurs. Et ça s'arrête, et quand ça s'arrête, les vomissements, on perd assez vite ces réflexes. Mais d'ailleurs, je trouve que ça développe un comportement très bizarre avec la nourriture et la boisson. Hein.
Ouais.
De méfiance, de... Dès qu'on approche, on se dit, voilà, qu'est-ce qui va passer ? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ça s'est passé hier ? Est-ce que ça va passer aujourd'hui ? Quelque chose que je connais pas du tout, en fait, en temps normal. Et ça développe un comportement très bizarre. Qui s'arrête... presque instantanément avec les vomissements, d'ailleurs.
Ouais. Vous parliez de vos enfants et de votre mari. Quel regard ils portaient sur vous dans ces moments-là ?
Alors, les enfants, les aînés à ce moment-là, étaient ados, jeunes ados. Alors, ils ont été très sympas. Ça s'est passé pendant les grandes vacances. Et ils sont restés beaucoup à côté de moi. Ils se sont enfilés des DVD, des séries de DVD. Mais c'était assez sympa de les avoir à côté quand même. Donc eux ont été assez sympas, et mon mari aussi d'ailleurs, hein, parce que franchement, je passais mon temps à dire « Ah non, mais tu sens ça, ah mais tu sens ça, ah mais tu sens ça !» Ça devait être quand même assez agressif pour lui. Même si je pense que comme ils n'ont pas éprouvé ça, ils n'ont pas compris en profondeur ce que je vivais, mais enfin, ils l'ont supporté en tout cas. En revanche, je trouve que le corps médical est beaucoup moins empathique à ce niveau-là, sur les vomissements.
Oui, c'est-à-dire ?
Parce que les médecins, en fait, ça les rassure, les vomissements. Donc, ils disent, bah oui, c'est pénible, bon, vous mettez sous traitement. Ah, bah oui, là, vous avez quand même perdu beaucoup de poids, bah oui, on va vous hydrater, mais bon, voilà, ça s'arrête là, quoi. Ils comprennent pas le côté quand même très handicapant du quotidien. Mmh. En tout cas, même s'ils le comprennent, comme pour eux, c'est bon signe, c'est une grossesse qui s'accroche, c'est des hormones qui sont à leur maximum, voilà, pour eux, c'est finalement assez satisfaisant.
Alors, vous dites à 4 mois pour votre deuxième grossesse et 4 mois et demi à peu près pour la troisième. Les vomissements se sont arrêtés. Est-ce qu'après, il y a eu d'autres maux qui sont apparus ou qui étaient peut-être déjà présents et qui ont continué?
Oui, alors il y en a eu d'autres, mais pas toujours les mêmes. Pour l'aîné, j'ai eu pas mal de problèmes urinaires. D'ailleurs, jusqu'à des coliques néphrétiques. Donc, ça a quand même été assez loin. Le second, j'ai été alitée très tôt parce que le col était ouvert. Et finalement, la dernière grossesse, une digestion difficile jusqu'au bout, mais là, pour le coup, j'ai été arrêtée très tôt par sécurité. Et du coup, ça a été une grossesse vraiment agréable.
Vous passiez de l'enfer à quelque chose, finalement, chose d'agréable, de l'ordre du plaisir, j'entends.
Exactement.
Plus vers la fin de la grossesse.
Ça s'est presque fait en 3 semaines de temps, parce que ce qui a vraiment arrêté les vomissements, ça a été une consultation chez ma copine ostéo. Et 3-4 semaines après, le gynéco a dit « Oh là là, on va vous arrêter par sécurité ». Voilà. En très peu de temps, je suis effectivement passée de quasiment l'enfer, en exagérant un peu, mais enfin bon, c'est quand même vraiment dur à vivre, à effectivement une période où j'ai ronronné de mon canapé à mon lit en regardant grossir mon ventre. Quoi. Donc ça, c'était quand même agréable.
Est-ce que vous avez observé aussi des changements chez votre mari durant la grossesse ?
Alors, il a pris du poids au début. Enfin, il a pris du ventre.
Oui.
il est maigre et en fait, d'un seul coup, tout dans le ventre. Mmh. Et ça a été très rapide. Je sais pas, peut-être à 3-4 semaines de grossesse, il s'est mis à grossir d'un seul coup. Et il a perdu, je dirais peut-être 4e, 5e mois, peut-être au moment où j'ai arrêté de vomir, je sais pas trop. J'aurais pu dire, mais... En tout cas, effectivement, il a pris du ventre. C'était assez impressionnant. Il n'a pas du tout cette morphologie-là. Enfin, c'était inédit.
Oui. Est-ce qu'au niveau aussi de son tempérament, comportement, de son humeur, est-ce que vous avez pu observer des changements ?
Alors, sur la dernière grossesse, mais parce que c'était une histoire particulière, cette dernière grossesse, il a été très angoissé jusqu'au bout. Parce que moi, j'étais très angoissée au début, mais à partir du moment où j'ai été arrêtée, j'ai vraiment profité. Il y a eu quelques petits déclencheurs avant, mais en tout cas, l'arrêt a vraiment validé cette joie d'accueil. Lui, il a vraiment eu du mal jusqu'au bout à se détendre. Vraiment. Mmh. Il a monté le lit, c'était une césarienne programmée, la veille au soir à 23h30. C'était pas possible autrement pour lui. Mmh. Vraiment, ça se sentait.
Est-ce que vous saviez que c'était possible d'avoir des maux comme ça, avec cette intensité-là, durant la grossesse ?
Les dernières grossesses, je le savais puisque j'avais vécu particulièrement pour la seconde, mais à ma première grossesse qui a été plus douce, hein, au premier trimestre, la première grossesse qui a pas été hyper fluide, mais quand même plus douce. Je savais pas que ça pouvait atteindre une telle intensité les vomissements. Franchement, non, ça je savais pas. Je savais pas qu'on pouvait en arriver à être perfusé, alité. Je m'enfermais dans ma cave. Quoi. C'était le seul endroit où j'étais bien, au frais et dans le noir. J'avais mis un matelas dans la cave.
Ok. Merci France. Je vous propose maintenant qu'on passe dans le salon d'à côté, rejoindre notre experte Camille Dubois, qui est sage-femme. Bonjour Camille, vous êtes sage-femme, vous travaillez en libéral à Paris, dans le 12e arrondissement. France vient voilà, de nous parler de ces trois grossesses et de ces moments particulièrement difficiles des premiers trimestres, voilà, les vomissements terribles qu'elle a vécu. Beaucoup, moi, des patientes que j'accompagne me parlent voilà, des maux de la grossesse. Alors, il y a les vomissements, mais on va voir, il y en a plein d'autres. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, voilà, par rapport à ce que France vient de nous dire, bah, ces vomissements, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans le corps pour qu'il y ait des nausées et des vomissements?
Bonjour. Alors, effectivement, les nausées et les vomissements sont des symptômes qu'on va retrouver fréquemment au début de grossesse, mais ils ne sont pas aussi importants chez toutes les femmes. Alors, au début de la grossesse, il y a tout un jeu hormonal qui va se faire et effectivement, il va y avoir une exacerbation des sécrétions hormonales qui vont apporter une modification au niveau des sens, au niveau des odeurs et qui vont venir perturber en fait comment on va recevoir aussi les aliments, comment on va percevoir son environnement. Alors vous parliez de choses qui sont assez intéressantes aussi, c'est il y a l'aspect aliment, l'aspect de l'eau, mais il y a aussi les odeurs du conjoint parfois qui peuvent être très gênantes et du coup qui peuvent générer aussi parfois des culpabilités chez les patientes et qui peuvent ne pas comprendre en fait leur état et effectivement qui vont mettre un petit peu en retrait le plaisir finalement d'accueillir cette nouvelle de la grossesse et qui vont rendre effectivement ces premiers mois très difficiles.
Oui, vous disiez France vraiment peut-être l'agressivité que ça pouvait susciter chez votre mari, voilà, le fait que vous ayez du fait de ces odeurs que vous perceviez de manière très forte des mouvements peut-être de rejet et du coup le besoin peut-être de le mettre un peu à l'écart ou à distance pour que ça soit plus supportable pour vous, mais pour le couple c'est pas forcément facile à vivre.
Ah, je pense que c'est pas facile à vivre de voir sa femme vomir sans arrêt, ça doit pas être très agréable. Et effectivement, je le mettais à distance et en plus, il devait avoir une impression permanente de jamais pouvoir me satisfaire parce que je lui dis non mais arrête de te parfumer. Alors il arrêtait son parfum. Je lui dis non mais ça sent pas bon non plus. Alors c'était le déodorant. Enfin, on a tout changé quoi, les dentifrices, les savons et ça n'allait jamais. Donc en fait, il faudrait quelque chose de complètement aseptisé, ce qui est impossible.
Et c'est impossible du fait que, de toute façon, les odeurs, vous allez les sentir de façon beaucoup plus forte que n'importe qui. Et effectivement, même les choses qui paraissent sans odeur vont tout d'un coup avoir une odeur.
Oui, vous parliez de l'eau, France.
Alors, et d'un point de vue médical, alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de réponses à apporter à ces nausées et ces vomissements. On va déjà d'emblée effectivement considérer l'aspect médical de la grossesse et se dire bon, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes en déshydratation? On va faire une prise de sang pour s'assurer que vous avez bien la composition de votre sang ne se modifie pas trop. Mais c'est vrai qu'on va avoir on va pas forcément avoir les réponses que vous pouvez attendre sur ces gènes. Là, il y a une réalité, c'est que déjà ça demande du temps aussi. C'est des choses qui ont besoin d'être parlées. Il faudrait avoir le temps effectivement de raconter vos journées, vos stratégies dont vous parlez aussi. C'est vrai qu'en consultation médicale, malheureusement, tous les praticiens n'ont pas forcément le temps. Il y a quand même des propositions qu'on peut faire pour essayer de calmer ces maux. Alors effectivement, vous avez trouvé l'ostéopathie qui vous a aidé sur la dernière grossesse. Il y a par exemple, l'acupuncture peut effectivement fonctionner très bien sur ces maux, puisque l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, va considérer le corps dans une globalité. Donc il y a et l'esprit et le corps qui vont former un tout et les énergies et il y a le sang aussi. Enfin, on considère que le corps est mouvement et en fait la grossesse va venir perturber les mouvements globaux du corps et l'acupuncture va venir rétablir les mouvements dans le corps. Et c'est vrai que la grossesse donc qui est vraiment centrale vient freiner en fait le mouvement de certains organes, notamment de l'estomac, de la rate pancréas. Donc on l'explique très facilement en médecine chinoise et l'acupuncture peut être vraiment très efficace chez certaines patientes ou en tout cas diminuer les maux.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé, France?
Non, j'ai pas essayé l'acupuncture.
D'accord. L'ostéopathie, par contre, vous disiez,
oui,
ça vous a aidé.
Oui, mais j'ai commis une petite erreur stratégique, c'est que notamment l'ostéopathe qui m'a soignée à la fin est une amie et dans une discussion quelques mois avant, elle m'avait dit non, mais on ne sait pas soulager ça. En fait, elle voulait me dire on ne sait pas soulager les nausées. Et moi, j'avais gardé ce on ne sait pas soulager en tête. Et donc, j'ai pas pensé à la contacter tout de suite. Or, elle m'a dit non, mais attends, les vomissements, je sais te les arrêter, mais je les contactais un peu tard. Bon.
Et puis les praticiens pensent pas en fait aussi tout simplement à vous orienter, c'est-à-dire qu'on pourrait au moins avoir ce rôle-là, c'est-à-dire qu'on sait pas faire, bon, c'est une réalité, effectivement, pendant la grossesse, on peut pas mettre en place des anti-émétiques qu'on mettrait en place chez des personnes qui ne sont pas enceintes, mais on pourrait au moins essayer de vous orienter, mais c'est vrai que, voilà, tous les praticiens ne connaissent pas forcément les autres propositions qui peuvent être faites pour ces maux.
Là, France nous a parlé des vomissements qu'on appelle gravidiques ou hyperémèses de la grossesse.
Oui.
Beaucoup de femmes, alors là, c'est un niveau d'intensité très élevé, voilà, qu'on pourrait dire, en tout cas, qui serait peut-être qualifié de pathologie. Beaucoup de femmes, sans en arriver à cette situation-là, vivent des nausées, des vomissements, en tout cas les maux, on va dire, plus classiques, peut-être plus traditionnels, voilà, de la grossesse. Quels sont les autres maux que vous pouvez rencontrer de manière courante ?
Alors, on va voir en début de grossesse différents maux. Effectivement, la première chose, on peut parler de la fatigue quand même, qui est effectivement très fréquente chez les femmes enceintes. Et le problème, effectivement, du premier trimestre dont vous parliez, c'est qu'on ne déclare pas toujours la grossesse, on n'en parle pas forcément autour de soi. Et on se retrouve effectivement dans un état, on n'est pas forcément, voilà, on ne se sent pas forcément dans ses baskets, tout simplement. Et on ne peut pas dire exactement ce qu'on a à son entourage et à ses proches. Et puis, c'est le moment où on va aller au travail normalement, on prend les transports, personne ne voit que vous êtes enceinte.
Alors que c'est peut-être le moment où les femmes auraient le plus besoin d'être assises, peut-être.
Exactement, oui. On n'ose pas toujours demander une place. Et puis, quand il n'y a pas les signes ostentatoires de grossesse, c'est vrai qu'on se sent encore moins légitime. Enfin, c'est un problème d'éducation aussi, de société, quoi.
Donc, on a parlé des nausées, des vomissements, de la fatigue. Quels sont les autres maux que vous observez chez vos patientes, Camille ?
Alors, on peut avoir des patients qui vont avoir des sautes d'humeur, par exemple, qui vont s'énerver pour un rien. Alors, c'est un peu comme, parfois en période de règles, il y a des femmes qui ont aussi ces troubles-là de problèmes de sautes d'humeur. On peut les retrouver, effectivement, aussi au premier trimestre. Ou sinon, une hypersensibilité aussi. Voilà, on regarde un film et puis, un mariage quelconque va nous faire fondre en larmes.
Donc une plus grande hypersensibilité aux émotions.
Tout à fait, oui.
Et une difficulté à les gérer.
C'est vrai qu'on parle de la grossesse comme une période de fragilité. Et c'est vrai que c'est à travers des petites choses comme ça, effectivement, qu'on peut effectivement comprendre que, on va être très réceptif à ce qui nous entoure. Parfois, ça peut être tout simplement des informations, des actualités qui sont très dures. Et c'est vrai qu'on va les prendre beaucoup plus de plein fouet. On va avoir du mal à les gérer, effectivement.
En tout cas, là, vous nous parlez des maux plus émotionnels. Vous parliez de la labilité de l'humeur, de l'irritabilité, des angoisses, parfois même de la tristesse, alors qui peut être fugace parfois, peut-être parfois un peu plus importante. Et puis, il y a les maux physiques, là, les nausées, les vomissements, la fatigue. On a beaucoup parlé des maux du premier trimestre. Est-ce que, il y a des maux plus spécifiques au deuxième et au troisième trimestre de la grossesse, en tout cas au niveau physiologique ?
Alors, oui, il en existe aussi, malheureusement. Alors, généralement, toutes les femmes n'ont pas tous les maux, donc on en prend quelques-uns, donc on peut les rassurer en leur disant « Heureusement, vous n'avez pas non plus ceci, cela ». Alors, au deuxième trimestre, on va retrouver des choses telles que la prise de poids soudaine, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est un changement hormonal qui fait qu'on va, on va pas manger forcément plus, ni mal, ni grignoter, mais le corps, tout d'un coup, va mal gérer, en fait, l'apport alimentaire. On peut retrouver des maux de tête, on peut retrouver des pertes vaginales plus abondantes aussi. On peut, il y a d'autres maux qui sont plus pathologiques, mais les problèmes aussi, tout ce qui va être lié à aller aux toilettes très très fréquemment, les perturbations du sommeil aussi. Alors c'est pas tant la difficulté à trouver sa position qu'on va retrouver plus au troisième trimestre, mais il y a quand même une modification du sommeil et parfois on a des insomnies, alors soit d'endormissement, généralement c'est moins le problème, c'est-à-dire que le soir on tombe de fatigue, parfois vers 21h, 22h, donc déjà le rythme aussi est modifié dans le couple, à la maison ça arrive assez fréquemment, mais du coup il va y avoir un réveil nocturne, souvent l'envie d'uriner, et puis là, on n'arrive pas à se rendormir. Et effectivement, ça va générer aussi une fatigue et puis des petits désagréments.
Vous dites bien là comment aussi un mot peut alimenter les autres. Là, on voit le sommeil qui peut alimenter la fatigue, accentuer la fatigue. Et parfois, ça peut être un peu aussi un cercle vicieux, quoi.
Bah, en tout cas, oui, une chose peut en engendrer une autre, c'est certain, ouais.
Vous nous parliez aussi des troubles digestifs, donc la constipation, les ballonnements, ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses qu'on retrouve régulièrement ?
Alors, on les retrouve très fréquemment et c'est vrai que c'est une question qu'on pose quand même très régulièrement. Moi, je sais que je la pose très facilement en consultation. Notamment, c'est le moment où on a besoin parfois de mettre en place du fer, une prise de fer aussi, qui peut soit constiper, soit donner des diarrhées. Donc ça va dépendre des patientes. Et effectivement, il faut connaître le terrain, il faut déjà voir un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là. Et essayer de mettre en place aussi, on est un peu toujours dans les stratégies, pour quels que soient les mots, mais voilà, essayer de corriger un petit peu, de donner des bons conseils aux patientes pour que déjà, naturellement, on essaye d'améliorer un petit peu les choses. Et puis, si besoin, on va aider par des moyens un peu plus médicamenteux, mais toujours pareil, la grossesse ne permet pas grand-chose en termes de médicaments.
Pas de stress, pas de voiture, pas d'escalier, pas de position debout trop long, pas de viande ou poisson cru, pas de salade et uniquement des tomates épluchées. Et puis pour éviter le risque de toxoplasmose, vous avez un chat ?
Non.
Camille, est-ce que vous auriez peut-être quelques stratégies, par exemple pour les troubles digestifs, qu'est-ce que vous pouvez proposer à vos patientes ?
Alors déjà, tout simplement, pour tout ce qui va être constipation, on va déjà boire, tout simplement, boire suffisamment d'eau. Continuer à marcher pendant la grossesse aussi et avoir une activité. C'est-à-dire que beaucoup de patientes demandent « Est-ce que je peux continuer à faire ceci, ceci, cela ?» Et moi, je leur dis « Il faut écouter votre corps, il faut continuer à faire. Tant que vous sentez que ça se passe bien, que vous allez bien, vous continuez. Après, c'est votre rythme que vous allez adapter. Mais marcher va vous aider à rester en forme jusqu'à la fin de la grossesse. Il ne s'agit pas de tout d'un coup arrêter de tout faire et... La grossesse n'est pas une maladie, bien qu'il y ait des symptômes parfois qui ne donnent pas cette impression. Mais en tout cas, rester en activité, c'est extrêmement important. Évidemment, manger équilibré et avoir un apport en fibres suffisant pour aider à la constitution des selles, tout simplement. Et puis après, y a des positions aussi, tout simplement, pour aller aux toilettes. On sait que avoir les genoux un peu en hauteur par rapport aux hanches, mettre un tabouret ou quelque chose sous les pieds, surélever les pieds, peut permettre du coup au rectum de s'ouvrir plus simplement. Mmh. Voilà. Donc c'est des petites choses. Puis les unes avec les autres mises ensemble, parfois peuvent aider un petit peu.
Pour les nausées, qu'est-ce que vous recommandez à vos patientes ?
Alors les nausées, c'est vrai que je leur propose très facilement de l'homéopathie. Déjà, je teste tout de suite. Alors il y a différents cocktails, on va dire homéopathiques, mais je leur dis vous en essayez un. Si vous voyez que ça marche pas, vous essayez le suivant. Enfin voilà, on essaye un petit peu tout. L'acupuncture, je leur dis aussi rapidement. C'est vrai que je pense pas forcément à leur dire l'ostéopathie, donc j'y penserai maintenant. et sinon, il y a par exemple manger avant de mettre le pied par terre. Ça, on sait que remplir l'estomac, en fait, peut aider à éviter les premières nausées du matin.
Donc là, les nausées qui vont être dues à une hypoglycémie, au fait...
Oui, il y a l'estomac vide, en fait. La sensation de l'estomac vide, il y a peut-être besoin de travailler pour se sentir plus actif et...
D'ailleurs, j'ai souvent entendu dire que de manger en continu aussi, de manière fractionnée, par exemple, c'était quelque chose qui pouvait aider également.
Voilà, pour garder justement l'estomac un petit peu plein tout le temps, ça peut effectivement aider. Le gingembre aussi peut faire beaucoup de bien. Donc le gingembre, on l'utilise aussi beaucoup en médecine chinoise, qui va venir réchauffer en fait et aider l'estomac à garder son activité. Il y a besoin de chaleur en fait à ce moment-là pour aider l'énergie de l'estomac à travailler dans le bon sens. Donc le gingembre peut être effectivement assez utile. Et après, moi, ce que je propose, c'est vrai que je dis aux patientes de s'écouter, c'est-à-dire que il peut y avoir des comportements assez paradoxaux, c'est-à-dire qu'il y a des patientes qui disent, je supporte pas l'odeur de telle chose ou telle chose, je ne peux pas cuisiner. Il y a des patientes qui n'arrivent plus du tout à cuisiner, donc qui ont du mal effectivement donc à s'alimenter, comme cela vous est arrivé, France. Donc, on va leur dire, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut passer, vous prenez et vous mangez ce que vous pouvez. Et je me retrouve avec des patientes, parfois, qui mangent des chips, qui vont manger un croissant, ou des choses grasses, alors qu'on aurait tendance à se dire, non, le gras, généralement, ça va. Voilà, ça va amplifier les maux, et puis pas du tout. Donc, essayer de les accompagner, déjà de les rassurer, de leur dire que... souvent, on leur envoie quand même faire des prises de sang, et effectivement, et vérifier que tout va bien. mais que voilà, que la grossesse se poursuit et il faut qu'elle se poursuive comme elle peut au début, quoi.
Oui, là, ça me fait penser à une patiente qui ne mangeait que des pizzas.
Ah bah
c'était
voilà.
La seule chose qui passait.
Voilà, dans les paradoxes.
Dans les autres mots, alors souvent aussi j'ai entendu mes patientes se plaindre de douleurs aux jambes, de problèmes de circulation sanguine. C'est des choses qu'on retrouve fréquemment.
Alors oui, c'est des choses qu'on retrouve fréquemment. En fait, c'est particulièrement le retour veineux. On va avoir en fonction, alors c'est, on va dire que c'est aussi de saison, c'est-à-dire que ça arrive souvent avec les fins de grossesse et quand il se met à faire très chaud, le retour veineux, tout simplement le fœtus vient bloquer un petit peu le retour veineux au niveau des jambes, mais effectivement on va avoir parfois plus d'œdème. Donc là, les bas de contention sont clairement une très bonne solution parce qu'on sent que les jambes quand même sont plus légères le soir. Sinon, tout simplement, les douches froides.
Quand il fait très chaud, peut-être pas forcément facile à porter.
Effectivement. Mais je leur dis, essayez, vous verrez quand même. Le soir, vous serez peut-être mieux. Sinon, les douches froides sur les jambes le soir, ça aide beaucoup. Et puis, surélever les jambes la nuit aussi, ça peut apporter un confort. Mais c'est pareil, on a... Voilà, c'est tout ça, c'est des problèmes de circulation du corps, d'énergie dans le corps et du sang qui sont perturbés. Et...
Par la grossesse. Ouais. Là, bon, ce sont tous les mots dits classiques. Alors, comme nous l'a dit France, on peut passer du côté un peu plus, un niveau en tout cas un peu plus pathologique. Alors, on a parlé des vomissements incoercibles. Quels sont les autres mots plus pathologiques de la grossesse?
Alors. Un des mots fréquents, c'est le diabète gestationnel, par exemple, qui... Alors, on fait un dépistage, généralement, entre 24 et 28 semaines, donc on est à peu près au sixième mois de grossesse. En fait, donc, c'est une glycémie qui va être perturbée, donc le corps, en fait, commence à créer une résistance à l'insuline, et du coup, il va moins bien gérer l'apport en sucre. Et donc, on va avoir une fluctuation des glycémies, et ça, on sait que cette fluctuation n'est pas bonne pour la croissance du bébé. Et du coup, effectivement, c'est souvent difficile à vivre parce que les patientes, on va un peu faire basculer quand même leur grossesse dans quelque chose qui allait bien, où tout se passait bien, dans une surveillance pluricotidienne, où elles vont devoir mesurer leur glycémie avant le repas, après le repas, et puis adapter et adopter des mesures alimentaires souvent drastiques. On va vraiment reprendre tout de A à Z, qu'est-ce qu'elles mangent, combien elle mange, à quel moment il faut qu'elle mange, et puis avec cette surveillance qu'il va falloir mettre en place. Et ça, c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui est vécu de façon désagréable par les patientes.
Oui, en tout cas, moi, j'ai déjà entendu plusieurs de mes patientes dire que moralement aussi, c'était voilà, difficile d'avoir à gérer, qu'il y avait de l'inquiétude aussi pour le bébé, puis voilà, toutes les contraintes que ça amène aussi dans la vie sociale, voilà, ce qui n'est pas forcément simple, donc le sentiment un peu de se sentir exclu, voilà, ou de devoir s'exclure du fait de devoir contrôler leur alimentation.
Elles vont avoir le droit à des très bons conseils en alimentaire et elles vont pouvoir aussi l'appliquer à toute la famille. Moi, ce que j'essaye aussi, c'est que tout le monde puisse s'impliquer dans cette nouvelle alimentation qui est de toute façon saine et va être bénéfique pour tout le monde et aussi pour le bébé à naître. Donc c'est vrai que j'essaye de leur dire qu'il y a un côté effectivement pas agréable, mais que derrière, elles vont quand même... voilà, c'est pour aussi surveiller le bébé et s'assurer que tout va bien et que voilà, le fait de suivre permet... de s'assurer que tout aille bien pour le bébé.
Là, on a parlé du côté des femmes, mais France nous a dit que son conjoint avait pris quelques kilos, lors de notamment de la dernière grossesse. Qu'est-ce qui se passe du côté des hommes? Est-ce qu'eux aussi, ils ont des maux de grossesse?
Eh bien oui, ils ont aussi des maux de grossesse. Alors la grossesse est une modification et du corps et de l'esprit. Et alors évidemment, les hommes n'ont pas la modification corporelle puisqu'ils n'accueillent pas la grossesse, mais voilà, psychiquement, j'imagine qu'il va aussi se passer des choses. Et donc on appelle ça la couvade, hein, et on rencontre ça chez différents hommes qui tout d'un coup vont prendre du poids. Voilà, prendre quelques kilos en début de grossesse, parfois avoir du mal à le perdre, ou alors le perdre voilà, soit en cours de grossesse, soit à l'accouchement, ou garder ce poids-là. Effectivement, ce sont des choses qu'on peut voir. Après, il peut y avoir d'autres difficultés, hein. On peut rencontrer aussi voilà, cette préparation psychique, mais ça, vous êtes mieux placé que moi pour en parler. Et on va voir effectivement qu'il peut y avoir des stress, des angoisses qui peuvent apparaître aussi.
Alors, en effet, on en a parlé d'ailleurs dans le premier épisode de parentalité, sur le bouleversement psychologique de la grossesse, où on a pu voir en effet que chez le père aussi, il y a tout un processus psychologique qui va se manifester par parfois à travers le corps, donc la prise de poids, mais aussi parfois de la tristesse, de l'anxiété, parfois des accès de violence, ça peut arriver, ou d'agressivité, ou même des troubles des conduites sexuelles. Parfois, en effet, ça arrive. En tout cas, moi, j'entends de plus en plus de pères ou de futurs pères qui viennent dans mon cabinet et qui peuvent se sentir parfois un peu étranges, mis à mal, voilà, bouleversés, chahutés par la grossesse, voilà, qui sentent bien que chez eux aussi, il se passe quelque chose, et puis qui parfois ressentent le besoin de venir en parler, de venir éclairer, comprendre, voilà, ce qui se passe pour eux à ce moment-là, dans ce bouleversement identitaire. Camille, vous nous avez donné plein d'explications, du coup, sur les différents mots. Donc, il y a toutes les explications physiologiques. Moi, je dis souvent que la grossesse, c'est comme une roue énergétique. C'est comme un gâteau qui serait divisé en trois parts, où il y a la part du corporel, du mécanique. Donc là, ça va être la prise de poids, le bassin qui va s'ouvrir, l'utérus qui va grandir. La deuxième part, ça serait le physiologique, le biologique, donc les changements hormonaux, les besoins énergétiques du bébé. Et puis la part psychologique, donc là, la réactivation de sa propre histoire de naissance, tous ces processus psychologiques du devenir parent. Et ce que j'explique parfois à mes patientes, c'est qu'il faut suffisamment d'énergie pour mettre dans chacune de ces parts du gâteau pour qu'il y ait un équilibre, pour qu'il y ait homéostasie. Et puis que parfois, c'est ce qu'on peut voir parfois dans les mots plus pathologiques, que l'énergie va être prise ailleurs et du coup, ça va créer un déséquilibre au sein de la grossesse. Vous avez parlé un petit peu, France, de l'ambivalence. Voilà, que même si chacun de vos enfants était très désiré, que par moment, voilà, au vu de l'intensité des mots, vous pouviez avoir envie que ça s'arrête. En tout cas, moi, je ne sais pas, c'est quelque chose que vous observez aussi, Camille, mais que je peux retrouver chez mes patientes, cette ambivalence, ou même parfois chez des patientes qui ont un parcours de PMA long, difficile, qui se disent, face à ces mots, si j'avais su, je serais peut-être pas venue. En tout cas, voilà, qui peuvent exprimer quelque chose de l'ambivalence par rapport à ce désir d'enfant, qui souvent peut être source de culpabilité pour la future maman.
Effectivement, on peut rencontrer ça, que ce soit une femme qui a une grossesse spontanée ou un parcours de PMA. La réalité, c'est qu'on véhicule beaucoup le plaisir de la grossesse, que voilà, ça va être magique, que tout va bien. Et effectivement, on ne parle pas beaucoup de ces désagréments, voire de ces vraiment grosses complications de début de grossesse. Et du coup, il y a un peu une douche froide parce que, d'autant plus si on est en parcours de PMA, on a eu quand même pas mal de traitements, il y a beaucoup de désagréments dans un suivi de PMA, beaucoup de difficultés, souvent rencontrées. Mmh. Et puis, on se dit, ça y est, et puis en fait, non, ça y est pas, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres soucis qui vont s'ajouter. Alors, il faut, c'est vrai que, parler, évidemment, pouvoir en parler, avoir un espace pour en parler, c'est vraiment primordial pour les patientes. Et effectivement, on peut retrouver de la culpabilité, de se dire, je l'ai tellement voulu, et puis c'est dur, quoi, c'est dur physiquement. Donc, il faut essayer de les accompagner, effectivement, verbalement, quoi, en discutant et en essayant de retirer cette culpabilité qui n'est pas de leur fait. C'est juste que, y a des moments où c'est difficile, quoi.
Bien sûr, oui. Et puis, on peut avoir très envie et puis en même temps être un peu inquiet et avoir peur. Voilà, devenir parent, ça peut faire peur aussi, même si on en a très envie. Parfois, certains mots aussi sont le signe de ces inquiétudes ou de cette ambivalence.
On les retrouve aussi parfois, alors pas toujours, puisqu'on a parlé effectivement du côté biologique, tout simplement des modifications hormonales de grossesse. Mais effectivement, parfois, il y a derrière aussi une histoire, des difficultés, des appréhensions. Et effectivement, la grossesse dure 9 mois aussi pour ça, c'est-à-dire qu'il y a toute cette préparation à cette future vie, à ces modifications de devenir parent et tout ce que ça va modifier dans la vie du couple et dans la vie d'un individu qui sont effectivement très importants.
Et est-ce que c'est pas l'apprentissage du rôle de parent de toute façon, tout simplement,
certainement,
d'accepter cette ambivalence, d'accepter que ce soit pas parfait, d'accepter que ce soit très dur et malgré tout une immense joie.
Oui, c'est vrai. Et puis mettre en place des stratégies aussi parfois.
Voilà, exactement.
Oui, et puis je crois qu'il y a toute la question de l'adaptabilité. C'est ce que vous nous avez dit, France. Voilà, que comment vous saviez que ces mots allaient être là. Voilà, ils étaient là, et puis il fallait vous adapter et traverser ça. Voilà. Et je crois que ça aussi, c'est certainement.
Il fallait presque les adopter d'une certaine manière et pas lutter contre. C'était encore trop d'énergie dépensée de lutter contre, en fait.
Ouais, il fallait les traverser. Et...
Oui, voilà.
Faire avec, les accepter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites, d'un moment à l'autre, on oublie finalement les stratégies qu'on a mises en place. C'est-à-dire qu'une fois que les mots partent, on part sur une autre énergie, sur autre chose.
Ah, oui,
et c'est vrai que c'est pareil avec les enfants.
C'est sûr que l'adaptabilité humaine est stupéfiante à ce niveau-là.
En tant que parent, et on le voit bien, voilà, on l'a bien vu dans différents épisodes de parentalité, voilà, que cette question de l'adaptation est quelque chose qui revient très souvent, voilà, pour pouvoir s'adapter aux situations. Plusieurs fois, Camille, vous nous avez dit l'importance d'en parler. Ça m'évoque l'importance peut-être de l'entretien prénatal. Est-ce que voilà, vous pouvez nous en dire quelque chose ?
Alors, pendant la grossesse, on propose effectivement pas mal de consultations, plusieurs suivis. Alors, il va y avoir tout l'aspect médical avec la consultation mensuelle pour s'assurer que tout va bien. Il va y avoir les échographies. Mais effectivement, il y a toute la dimension qu'on connaît peut-être un petit peu moins de l'entretien prénatal précoce, donc qui est fait vers le quatrième mois et qui va être un espace ouvert pour pouvoir discuter de la grossesse de façon générale, de comment elle est vécue, comment elle s'inscrit dans le travail, comment elle s'inscrit dans le milieu familial, dans une histoire familiale aussi de la patiente. Moi, c'est vrai que j'essaye, je le propose systématiquement. Bah, j'ai la chance maintenant d'être en libéral, donc en plus, ça me permet de voir et de connaître, de rencontrer vraiment les patientes et de connaître leur histoire. Et parfois, on dénoue effectivement des petites choses. Alors, l'intérêt de cet entretien, c'est déjà de leur montrer qu'effectivement, il n'y a pas que l'aspect médical de la grossesse, mais qu'il va se passer plein de choses et qu'elles ont le droit d'en parler et qu'elles doivent verbaliser et qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et puis, ça nous permet aussi d'orienter les patientes. C'est-à-dire qu'il y a des patientes qui vont avoir plus de difficultés ou qui peuvent rencontrer après la naissance de l'enfant. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est de travailler en amont pendant la grossesse pour préparer le terrain, tout simplement, du devenir parent. Et si on sent qu'il peut y avoir des difficultés, leur dire que ça peut arriver, que c'est normal, que ça arrive à d'autres aussi et qu'il ne faut pas qu'elles s'isolent dans ces moments-là. Et donc, moi, je leur propose, s'il y a besoin, de rencontrer psychologue. On a des psychologues dans toutes les maternités maintenant, ou de rencontrer une psychologue en libéral, parce que ça leur donnera en fait un autre ancrage pour leur grossesse et ça leur permettra de connaître quelqu'un aussi s'il y avait des difficultés à venir, voilà, d'avoir un interlocuteur déjà connu.
Oui, en tout cas, moi je dis souvent aux patientes qu'il y a la dimension physiologique et psychologique et c'est comment voilà, chacun des intervenants de la grossesse va accompagner ces deux facettes-là qui sont les deux facettes d'une même pièce.
Tout à fait.
Et les deux sont très importants et sont liés et que le processus du devenir parent s'exprime aussi à travers tous ces mots de grossesse.
Tout à fait. Moi je dis à mes patients qu'une grossesse qui va bien, c'est une grossesse qui va bien dans la tête avant tout. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir dénouer les choses s'il y en a qui doivent l'être.
En tout cas, là, au vu de ce que vous venez de nous dire, Camille, il y a l'entretien prénatal et puis je pense aussi à la préparation à la naissance et à la parentalité, voilà, qui sont aussi des temps très précieux pour pouvoir parler de ce qui se passe, tant au niveau physiologique que psychologique.
Alors oui, il y a donc s'en suivent après l'entretien prénatal précoce, les cours de préparation. Alors on aborde généralement beaucoup l'accouchement au cours de ces séances, mais effectivement c'est aussi une préparation à la parentalité. Donc on va aborder donc effectivement tout ce qui va être l'accouchement lui-même. L'idée c'est vraiment de venir dénouer les peurs qu'on peut avoir sur l'accouchement, puisque c'est vrai que on parle beaucoup de douleurs. Les femmes ont en tête que ça va être vraiment rapide, douloureux, enfin que ça va être vraiment quelque chose, une montagne parfois insurmontable. Et l'idée, donc, c'est de poser un peu des balises sur qu'est-ce qui va se passer. C'est comme la grossesse, c'est une continuité. Donc tout ça, il faut qu'elle l'entende, que voilà, on bascule pas d'un un moment où tout va bien à tout d'un coup, hop, j'accouche, j'ai des contractions, c'est parti. Voilà, les choses se font encore une fois petit à petit et au fur et à mesure. Donc, tout ça, elles ont besoin de l'entendre. On aborde aussi beaucoup la parentalité, c'est-à-dire le devenir parent, les modifications dans le couple, dans les échanges, les incompréhensions qu'on peut avoir si on ne discute pas. C'est vrai qu'il y a des nouveaux sujets, évidemment, avec le bébé, puis il y a une tierce personne qui va avoir ses propres envies, ses propres besoins qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir. Et puis, tout ça vient vraiment apporter un bouleversement dans le couple aussi. Et bien ça, sûr. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément conscience. C'est-à-dire que le couple peut être chamboulé et ça, moi j'ai entendu des patientes me dire on m'avait pas dit quoi.
France, vous avez fait une préparation à la naissance, à la parentalité ?
Alors particulièrement sophrologique.
Ouais.
Je trouve que même quand on a déjà accouché, c'est bien de se remettre en selle. Chaque grossesse est différente, chaque enfant est différent. C'est personnel, mais moi effectivement j'aime bien cette idée de cheminer. C'est comme un temps offert à l'enfant à chaque fois, enfin au couple d'ailleurs aussi, mais je trouve ça très bien.
Souvent, je recommande des lectures à mes patientes. Camille, est-ce que voilà, vous auriez quelque chose à recommander aux personnes qui nous écoutent?
C'est vrai que moi, personnellement, j'ai pas lu beaucoup les livres qui concernent la grossesse. En tout cas, il y a un livre que les patientes me recommandent souvent, enfin, m'en disent beaucoup de bien, c'était Maternité et bien-être de Gasquet, où effectivement, il y a quand même pas mal de solutions, pas mal de choses qui peuvent être expliquées, et du coup, qui peuvent retirer les inquiétudes rapidement des patientes quand elles se posent des questions et qu'elles n'ont pas toujours accès au corps médical pour y répondre rapidement, qui explique beaucoup de choses aussi sur la physiologie, effectivement, tout le bouleversement que va connaître le corps. Et puis, on propose des solutions, par exemple pour les maux de dos aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les douleurs de dos, tout ça, on peut faire du yoga, faire des exercices qui peuvent vraiment aider. Et je crois que ce livre est pas mal.
Oui, donc une dimension pratico-pratique aussi. Moi, pour la dimension justement de la physiologie de la grossesse, je recommande souvent La grossesse au naturel d'Ina Megaskin, où il y a une partie témoignage, mais aussi toute une partie qui va expliquer physiologiquement ce qui se passe. Voilà, et quand on comprend ce qui se passe dans son corps, c'est plus facile aussi d'accepter les désagréments, ce qui est désagréable et difficile.
Très bon livre, en effet.
Merci beaucoup, France, d'être venue témoigner et d'avoir partagé avec nous ce qui a été difficile pour vous dans vos grossesses. Merci beaucoup, Camille Dubois. Je rappelle que vous êtes sage-femme dans le 12e arrondissement à Paris.
Merci.